Et le merlot a perdu le couail.
Et le merlot a perdu le couail.
Le couail d'Auri Nori d'Ouaï Noï la tête et le bain.
Le couail d'Auri Nori d'Ouaï Noï la tête et le bain.
Chante Rocco que merle, chante Rocco Saint-Bain.
Souhaitant se ressourcer suite au tumulte de la place de la Victoire, notre merle part se nicher au sommet de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Offrant une vue imprenable sur l'horizon et les dômes volcaniques, elle est placée au sommet de la butte centrale, au carrefour de l'ancienne ville fortifiée, et il sait que de là-bas, il pourra observer la ville et ses habitants, tout en gardant un œil sur la statue du pape Urbain II. Pourtant, une fois posé sur ses flèches, pour nous qui l'observons, il disparaît complètement, noyé dans la couleur de la pierre de Volvic, si particulière de notre terre. Mais saviez-vous que la cathédrale de Clermont-Ferrand n'a pas toujours été noire ? En effet, la cathédrale primitive, érigée au 5e siècle par l'évêque de la cité des Arvernes, Namatius, était bien plus classique. Elle est d'ailleurs plus connue par les gens qui ont laissé leur empreinte que par son architecture. Si je vous dis Sidoine Apollinaire, ce nom vous dit quelque chose, mais saviez-vous que c'était l'un des poètes les plus célèbres de ce siècle qui fut évêque d'Auvergne en 471 avant de devenir un saint de l'Église catholique ? S'il est célèbre pour ses poèmes, il est aussi célèbre à Clermont pour avoir organisé la défense de la ville face aux attaques des troupes wisigoths du roi Euric entre 470 et 475. Mais malgré une défense acharnée, les troupes ennemies remportèrent la bataille. Un premier coup dur pour cette cathédrale. Le coup fatal sera porté quelques siècles plus tard. Elle est détruite une première fois en 760 par Pépin le Bref, reconstruite, puis détruite à nouveau par les raids normands en 915, puis reconstruite encore, en style roman cette fois-ci. Ce n'est que 3 siècles plus tard, en 1248, qu'elle prendra la couleur qu'on lui connaît. C'est l'évêque Hugues de la Tour qui décide de lancer le chantier d'une nouvelle cathédrale alors qu'il vient d'être émerveillé par la Sainte-Chapelle de Paris. Il souhaite construire une église de style gothique à Clermont-Ferrand pour affirmer la suprématie du Nord, mais aussi la sienne, sur la ville. Le chantier est confié à Jean Deschamps, qui s'inspire des cathédrales de Beauvais et d'Amiens et propose des plans originaux. Surtout, il décide d'utiliser un matériau pour la première fois, la pierre de Volvic. Cette pierre sombre, aussi résistante que souple, lui permettant d'élever les hauts piliers que vous pouvez observer en levant la tête. Vous ne connaissez pas la pierre de Volvic ? Peut-être avez-vous entendu parler de la pouzzolane. C'est une roche naturelle constituée par des projections volcaniques possédant une structure alvéolaire et souvent de couleur rouge ou noire. Pour la pierre de Volvic, vous l'avez compris, elle est noire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si elle est utilisée à partir du XIIIe siècle pour la construction de bâtiments, elle est bien plus ancienne. Elle provient des coulées du puits de la Nugère, un volcan qui a connu quelques éruptions il y a déjà 11 000 ans. Et c'est la seule réserve naturelle de pouzzolane en France. Si elle a servi pendant longtemps à marquer l'architecture locale, en étant utilisée dans les bâtiments ou les fontaines, comme la fontaine d'Amboise, elle est aujourd'hui surtout utilisée par les artistes dans leurs sculptures, comme vous pouvez en voir à Chape-Beaufort, sur le chemin Fézard. Mais revenons à Notre-Dame. Sa particularité réside donc autant dans sa couleur que dans son style. Et c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de « Cathédrale des Charbonniers », surnom donné par les frères Goncourt, écrivains du XIXe siècle, dont le nom vous est sûrement familier. C'est à la même époque qu'elle commencera d'ailleurs à se dévoiler sous l'image qu'on lui connaît, puisque ce n'est qu'après avoir été classée « Monument historique » en 1862 que les travaux d'achèvement démarrent. Ce n'est d'ailleurs qu'au XXe siècle que sera construit l'emmarchement sur lequel vous êtes installé, face à la rue des Gras. Pour l'anecdote, cette construction nécessitera la destruction de la maison d'une autre célébrité locale, dont vous connaissez le nom, Blaise Pascal. En parlant d'anecdote, le merle souhaite vous en glisser une autre avant de reprendre son envol. Alors qu'elle a échappé de peu à la destruction lors de la Révolution française, cette cathédrale est aujourd'hui l'une des seules à garder le témoignage du culte de l'être suprême, instituée par la folie dictatoriale de Robespierre et la brève convention montagnarde, appliquée de 1793 à 1794. Si vous regardez bien avant de continuer votre chemin, vous en verrez peut-être les traces.